Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale. Aujourd'hui, nous allons aborder la question cruciale des protéines, ces macronutriments essentiels à la constitution des tissus humains. Nous allons d'abord définir ce que c'est, avant de s'intéresser au fonctionnement de cette molécule, ses vertus et ses apports quotidiens généralement recommandés. Toute la première partie de ce podcast sera accessible à tous, tandis que la seconde partie, réservée aux membres Blueness, est plus dense. Et elle abordera de manière beaucoup plus approfondie les apports optimaux de protéines en pratique, et ce pour les différents cas de figure, que ce soit en alimentation méditerranéenne, cétogène, pour les sportifs ou encore les personnes âgées. Je vous invite donc pour la deuxième partie à vous rendre sur le site blueness.com pour pouvoir accéder à cette partie-là. Alors les protéines, qu'est-ce que c'est ? Les protéines, ce sont des molécules qui sont essentielles à l'être humain, en ce sens que l'organisme ne peut pas les fabriquer par lui-même. Donc les protéines, à l'instar des lipides, sont essentielles, et ce à la différence des glucides. Donc les protéines agissent comme hormones, c'est-à-dire qu'elles vont agir sur le contrôle d'un organe, par exemple, mais aussi comme enzymes. Donc ça va être des catalyseurs de réactions chimiques, c'est-à-dire des accélérateurs ou des déclencheurs. Et enfin, les protéines agissent comme anticorps du système immunitaire. Elles constituent également certaines structures du corps, comme les tissus conjonctifs, le cartilage, les os, la peau, les cheveux et bien sûr les muscles. C'est d'ailleurs en général leur rôle le plus connu dans l'imaginaire collectif. Une grande partie des protéines est stockée dans les muscles, en tant qu'élément constructif, et pas ou peu comme source d'énergie. Il faut savoir que l'organisme utilise les trois macronutriments que nous connaissons tous comme source d'énergie, les protéines, les glucides et les lipides. Mais dans les faits, les protéines, ce sont les macronutriments les moins priorisés par l'organisme en tant que source d'énergie. Disons que les protéines ne sont tout simplement pas mobilisées très efficacement pour fournir rapidement du carburant à l'organisme, à l'inverse des glucides qui sont majoritairement mobilisés tant qu'on en a en stock, et lors de besoins d'énergie liés à une activité par exemple intense, avant que les graisses de réserve ne viennent prendre le relais, notamment d'ailleurs lorsque le taux d'insuline est bas et lors de besoins de faible intensité comme la marche par exemple. D'où la nécessité d'ailleurs d'augmenter son activité en mouvement de manière générale et pas uniquement au cours d'activités physiques très intenses. C'est d'ailleurs le piège dans lequel tombent bon nombre d'individus qui souhaitent perdre du poids. Ces individus pratiquent une activité sportive courte et très intense, ce qui est une bonne chose pour la santé générale, pour le renouvellement des mitochondries, donc ces petites centrales énergétiques situées dans les cellules, et pour lesquelles nous allons dédier un contenu à part entière. Mais en faisant uniquement cela, il peut arriver que ces individus fassent monter leur glycémie, donc via la pratique sportive intense, et via une alimentation riche en glucides, donc leur taux d'insuline. En faisant monter leur glycémie, inévitablement leur taux d'insuline augmente, et le tout en étant par ailleurs la plupart du temps, le reste du temps en dehors de leur séance de sport, relativement sédentaire. Donc en dehors des 2, 3, 4 ou 5 heures d'activité physique intense par semaine, le reste du temps, ces individus sont sédentaires, ce qui, dans les faits, empêche la mobilisation des graisses de réserve. C'est pour cela qu'il est intéressant, au-delà du sport, d'augmenter son activité en mouvement de manière générale, et notamment des mouvements de faible intensité. Pour revenir aux protéines, elles ne sont majoritairement pas utilisées comme source d'énergie, mais plutôt comme une sorte de brique qui vient renouveler les tissus, comme la peau, les ongles, les cheveux et les muscles. C'est la raison pour laquelle ce macronutriment est tant consommé par les pratiquants de musculation. D'ailleurs, dans une recherche de longévité en bonne santé, on cherche justement à épargner le stock de muscles, et à utiliser soit les glucides ingérés ou stockés sous forme de glycogène, le glycogène étant la réserve de sucre dans l'organisme, soit les lipides stockés ou apportés par l'alimentation. L'objectif donc étant de préserver au mieux sa masse musculaire le plus longtemps possible, surtout à un âge avancé. C'est la raison pour laquelle la perte de poids peut fonctionner lorsqu'on diminue à la fois sa consommation de glucides et sa consommation de lipides, mais seulement jusqu'à un certain point. Les nutritionnistes recommandent d'ailleurs ce genre de coup de collier uniquement sur des périodes assez courtes, d'un mois, un mois et demi maximum. Au-delà, ce sont les muscles qui risquent de cataboliser, et donc ce serait contre-productif, car rebâtir du muscle prend énormément de temps, surtout à un âge avancé. Par ailleurs, outre les sportifs, les personnes sédentaires auraient également intérêt à consommer des protéines régulièrement et en quantité suffisante, à hauteur de leurs besoins. Et nous reviendrons sur leurs besoins, puisque le corps ne stocke pas les protéines ingérées pour une réutilisation ultérieure, contrairement aux glucides ou aux lipides par exemple. De plus, il faut savoir que pour maintenir sa santé et le bon fonctionnement de l'organisme, le corps a besoin de constamment fabriquer de nouvelles protéines. Cela nécessite un approvisionnement relativement constant en acides aminés, donc qui forment les protéines, et cela nécessite de l'énergie, car la synthèse de nouvelles protéines est un processus particulièrement énergivore. Pour donner un exemple, les cheveux sont renouvelés environ tous les 2 ans, et la couche externe de la peau toutes les 3 semaines. Or, tout facteur qui vient entraver la synthèse des protéines peut conduire rapidement à une perte de tissu maigre, ce qui est extrêmement dommageable pour la santé. En termes de composition, les protéines sont constituées d'acides aminés qui sont reliés entre eux par des chaînes. Dit à l'inverse, les acides aminés sont donc des molécules qui, combinées entre elles, forment les protéines. Il existe 20 acides aminés qui forment les protéines. On les appelle les acides aminés protéinogènes. Certains de ces acides aminés sont essentiels car le corps ne peut pas les synthétiser lui-même. Il faut donc veiller à consommer ces acides aminés essentiels, qui sont au nombre de 8, sous peine d'être carencés. Une carence en acides aminés essentiels se caractérise généralement par une certaine fatigue, un système immunitaire affaibli, des ligaments fragilisés, etc. Ces 8 acides aminés essentiels sont notamment la leucine, l'isoleucine, la valine, la lysine, la méthionine, la threonine, le tryptophane et le phénylalanine. Les 2 acides aminés semi-essentiels sont l'histidine et l'arginine, qui sont considérés comme semi-essentiels car ils sont notamment indispensables chez le nourrisson. Et enfin, il reste 10 acides aminés non essentiels. Tous ces acides aminés sont plus ou moins inconnus du grand public, mais les sportifs sont un peu plus familiers avec ces appellations, car certains de ces acides aminés sont parfois proposés en supplémentation, notamment dans le cas des sports de résistance, qui ont pour objectif le renouvellement des tissus musculaires. Bon, les aliments riches en protéines. On va retrouver du côté animal les œufs, la viande, les poissons, les fruits de mer, les produits laitiers, la charcuterie. Nous n'allons pas nous attarder plus longuement sur la liste des aliments riches en protéines, car un contenu leur sera entièrement dédié dans la suite. D'un point de vue végétal, les nutriments végétaux riches en protéines constituent une source alimentaire très qualitative, car ils présentent beaucoup de bienfaits outre leur apport en protéines. Et parmi ces aliments, on trouve notamment les pois chiches, les lentilles, les légumineuses, le tofu, le soja, les arachides, les noix, les graines, et dans une moindre mesure, les céréales, le riz, l'avoine et le seigle. Il faut juste prendre en compte que leur consommation induit inévitablement un apport en glucides ou en lipides, contrairement à la viande, et leur préparation peut nécessiter de longues étapes afin de réduire leur teneur en antinutriments. Et ces antinutriments peuvent causer des inconforts digestifs chez certains. Par ailleurs, dans le cas d'une alimentation uniquement ou majoritairement végétarienne, il est judicieux de prendre en compte le concept de complémentarité des protéines qui fera l'objet du podcast suivant. Alors, quelle énergie apportent les protéines en termes de calories? Vous n'êtes pas sans savoir que les protéines, tout comme les glucides et les lipides, apportent de l'énergie à l'organisme. Certes, l'énergie apportée par les protéines n'est pas forcément immédiatement utilisable par l'organisme sous forme de carburant. Comme pourrait l'être l'apport en glucides, c'est ce que nous avons vu avant. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la mesure objective de ce que va représenter objectivement donc la consommation de protéines dans l'organisme. Et pour objectiver cela, la science quantifie la consommation de nutriments sous la forme d'une unité de mesure qui est la célèbre calorie. Même si, selon les grands principes du guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale, le concept de calories est à relativiser par rapport à tout ce qui est expliqué donc dans notre guide, il n'en reste pas moins que la calorie est considérée comme le référentiel énergétique et que finalement, il y a quand même un bol alimentaire total à estimer et qui est une contrainte mathématiquement parlant, même si la valeur de ce total calorique dépend d'énormément de facteurs, parmi lesquels certains sont clairement sous-estimés, comme d'ailleurs, comme par exemple le niveau du métabolisme de base, par exemple. qui se situe malheureusement trop souvent au ras des pâquerettes. Ainsi, pour mieux comprendre comment on peut quantifier ces apports en chaque macronutriment, donc protéines, glucides et lipides, et ainsi ajuster ses besoins en fonction des essais qu'on va mettre en place en termes de quantité et du résultat qui va apparaître sur le miroir et en termes d'énergie, il faut pouvoir estimer donc un apport en protéines qui sera estimé donc à la fois en termes de poids, 100 grammes de viande par exemple, 3 œufs ou une boîte de sardines, et à la fois au niveau de ce que cet apport peut représenter en énergie, donc en calories. Et ce, afin de pouvoir passer d'une unité de mesure à l'autre très facilement, donc des grammes aux calories et des calories aux grammes. Si on ne sait pas faire ça, on va très vite être bloqué dans la reprise en main de son alimentation. Pour rappel, donc on avait déjà vu ça précédemment dans d'autres chapitres du guide Blueness, 1 gramme de protéines correspond à 4 kilocalories. Et c'est également le cas des glucides, qui représentent donc 4 kilocalories pour 1 gramme de glucides consommés. A l'inverse, 1 gramme de lipides, donc de matière grasse, correspond à 9 kilocalories. Donc les lipides sont plus denses énergétiquement parlant que les protéines et les glucides. Et en fait, le fait de connaître, d'apprendre à manager cette conversion, cela va particulièrement servir lorsqu'on souhaite estimer approximativement combien de protéines on devrait consommer chaque jour. En pratique, on peut ainsi déduire que 100 g de steak de bœuf, on va prendre cet exemple-là, 100 g de steak de bœuf à 15% de matière grasse va apporter environ 15% de lipides, les matières grasses, donc puisque c'est un steak de bœuf à 15% de matière grasse, et 15% de lipides dans 100 g, c'est tout simplement 15 g, et 15 g de lipides, c'est en calories, 135 kilocalories. Pourquoi? Parce que 15 g multiplié par 9 kilocalories, cela donne 135 kilocalories. Toujours dans ce steak de bœuf de 100 g, nous allons avoir 20% de protéines. C'est tout simplement écrit sur l'étiquette. Et pour 100 g de bœuf, on estime en général que cela équivaut à 20 g de protéines, et non pas 100 g de protéines d'ailleurs. Et donc ces 20 g de protéines représentent donc en énergie 20 g de protéines multipliées par 4 kilocalories, ce qui donne 80 kilocalories. Ce qui fait que le total calorique de ce steak de bœuf donc représente environ 215 kilocalories. Ce genre de calcul doit véritablement être maîtrisé, car il va s'avérer utile lorsqu'on souhaite estimer combien de protéines on devrait approximativement consommer pour respecter un ratio recommandé. Et nous allons voir les ratios recommandés un peu plus tard dans ce podcast. Les protéines sont donc, avec les glucides, les deux macronutriments qui pèsent en tout cas le moins d'énergie rapportée au gramme, alors que les lipides sont plus denses en énergie. Mais, contrairement aux glucides, les protéines sont, à l'instar des lipides, très satiétogènes, c'est-à-dire que les protéines entraînent un bon sentiment de satiété assez rapidement. En outre, leur décomposition dans l'organisme va coûter de l'énergie, ce qui signifie qu'un gramme de protéines apporte certes 4 kilocalories, mais la métabolisation de cette protéine pourrait bien coûter entre 20 à 30% des calories consommées, contre seulement 5 à 10% pour les glucides et tout simplement 5% pour les graisses, qui est bien, bien plus bas. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le concept de la thermogenèse induite par l'alimentation, concept selon lequel la digestion et le métabolisme des nutriments peuvent entraîner une dépense énergétique supplémentaire. Ces chiffres sont approximatifs, mais suggèrent que la métabolisation de la protéine coûte de l'énergie à l'organisme, car elle est plus laborieuse que la décomposition des glucides et des lipides, ce qui pourrait donc expliquer en partie l'effet satiétogène induit par la consommation de protéines. Donc en résumé sur les apports énergétiques en protéines. Pour résumer de manière simple, on sait maintenant que les protéines sont contenues dans certains aliments, et ces protéines, donc certains aliments qui sont majoritairement des aliments animaux, hein, œufs, volailles, produits laitiers, etc., et dans certains aliments végétaux. Et ces protéines vont permettre de renouveler les briques constituantes de notre organisme, comme les ongles, les cheveux, la peau, les muscles et les organes. On a également vu que 1 g de protéines, ça apporte, en termes d'énergie, 4 kilocalories. Et enfin, on a appris que dans 100 g de viande blanche, viande rouge et même parfois poisson ou fruits de mer, même si la teneur est un peu moindre, On trouvait généralement entre allez, 15 et 25 grammes de protéines, suivant les aliments. Disons 20 grammes de protéines par 100 grammes de viande, qu'elle soit blanche ou qu'elle soit que ce soit des poissons. Donc disons en moyenne 20 grammes de protéines par 100 grammes de viande, en moyenne pour simplifier. Dit autrement, et c'est toujours bon de le rappeler pour les personnes qui débutent dans la reprise en main de leur alimentation, 100 grammes de protéines ne correspondent pas à 100 grammes de viande. Et 100 grammes de viande ne correspondent pas à 100 grammes de protéines. Dans 100 grammes de viande, il y a généralement seulement 20 grammes de protéines environ. Le reste, c'est un peu de lipides, de l'eau, des micronutriments et d'autres constituants de l'aliment. Enfin, pour récapituler, on a appris qu'à partir de 100 grammes de viande, qui apporte environ donc 20 grammes de protéines, et généralement entre 5 et 15 grammes de lipides, on peut estimer la teneur en calories, c'est-à-dire l'énergie apportée par la consommation de cet aliment à l'organisme, et qui est dans ce cas d'environ 215 kilocalories au 100 grammes, un peu moins s'il s'agit d'une viande plus maigre. À remettre donc en perspective avec le total calorique moyen d'un individu lambda de 70 kilos, dont on estime qu'il pourrait consommer entre 1800 et 2600 kilocalories par exemple, c'est une estimation à la louche, et sachant que les protéines sont le macronutriment de base à compléter par des glucides et des lipides en fonction de l'alimentation choisie. On a également appris à passer des calories au gramme et vice-versa, ce qui va permettre dans la suite de ce contenu et par la suite, de manière absolue, à mieux prévoir quelle quantité d'aliments riches en protéines on pourrait consommer afin d'atteindre un idéal pour la santé, pour la perte de poids, le gain musculaire et la longévité. C'est pour atteindre cet objectif que nous sommes un peu obligés de comprendre tout cela. Donc le fait, par exemple, qu'un gramme de protéines, c'est 4 kilocalories, ou que, par exemple, si on part des calories, il faut diviser par 4 pour avoir le nombre de grammes de protéines. En ayant conscience de ce que pourrait être un apport recommandé en protéines, nous n'aurons ainsi plus qu'à ajuster la consommation de protéines via la pesée hein, de l'aliment, grâce à tout ce que nous venons d'apprendre. Et pour savoir quelle quantité d'aliments riches en protéines on pourrait consommer de façon régulière, reste à savoir quels sont donc les fameux apports recommandés en protéines par les pouvoirs publics. Et voyons enfin si des leaders d'opinion en nutrition ont des avis un peu plus précis, notamment pour les cas particuliers, comme l'âge avancé, la pratique d'une activité sportive, la recherche de longévité en bonne santé, ou tout simplement la pratique d'une alimentation pauvre en glucides, comme l'alimentation low carb, voire cétogène. Alors quel est l'apport recommandé en protéines? Les besoins concrets en protéines diffèrent d'une personne à l'autre. Mais selon l'âge, les contraintes physiques et intellectuelles, etc., il y a plusieurs facteurs, l'organisme va avoir besoin de quantités variables de protéines pour rester performant et en bonne santé. Ça dépend donc de plusieurs facteurs. Un pratiquant de musculation, qui pratique en plus du canoë et kayak par exemple, n'aura pas les mêmes besoins en protéines qu'un pratiquant de musculation relativement sédentaire, qui n'aura pas les mêmes besoins en protéines qu'un sportif d'endurance, qui est par définition donc non sédentaire celui-là, et qui n'aura pas les mêmes besoins qu'un pur sédentaire. C'est pourquoi il est important de tester différents apports en protéines sur plusieurs semaines afin de trouver son optimum, en commençant par une fourchette plutôt basse au départ, en se basant donc sur les recommandations officielles, et en augmentant progressivement en fonction des objectifs et des ressentis. Mais quelle est donc cette fourchette basse que recommandent les pouvoirs publics? C'est ce que nous allons voir juste maintenant. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, donc l'ANSES, l'organisme public qui a pour mission principale d'évaluer les risques sanitaires en France, recommande de consommer quotidiennement 0,83 g par kilo de poids de corps par jour, ce qui représenterait environ 62 g par jour de protéines pour une personne de 75 kg. Par exemple, 100 g de viande, blanche ou rouge, ou de poisson blanc, contiennent généralement environ 20 g de protéines, nous l'avons vu, et 3 œufs correspondent également environ à 20 g de protéines. Donc en suivant ces recommandations, pour un individu de 75 kg, on pourrait donc considérer que 3 œufs le matin, une part de viande blanche ou rouge le midi et une part de poisson le soir suffiraient à couvrir ces 60 g de protéines recommandées par les pouvoirs publics français. Par ailleurs, en 2016, un groupe de travail de l'ANSES a établi une seconde recommandation de répartition des protéines basée sur l'apport calorique total cette fois-ci. Et cette recommandation suggère que les protéines pourraient représenter 10 à 20% du total calorique. Donc pour une personne qui consommerait environ 2000 calories par jour, ce qui correspond souvent à monsieur ou madame tout le monde, cela représenterait donc entre 50 et 100 grammes par jour de protéines. Ce qui équivaut à peu près à la première recommandation au niveau de la fourchette basse, mais avec une tolérance plus grande pour une consommation plus élevée de protéines, ce qui semble aller d'ailleurs dans le sens de l'histoire, mais nous allons y revenir. Enfin, concernant le maximum d'apports protéinés journaliers, l'ANSES estime qu'en l'état actuel des connaissances, des apports entre 0,83 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps par jour de protéines, soit 10 à 27% de l'apport énergétique, peuvent être considérés comme satisfaisants pour un individu adulte de moins de 60 ans. Ce qui signifie que dans certains cas de figure, il ne serait donc pas nocif de consommer jusqu'à 2 grammes par kilo de poids de corps. C'est une grande avancée, notamment en Europe de l'Ouest, où les protéines restent quand même relativement assez mal vues. Effectivement, la consommation, disons que la consommation élevée de protéines était jusqu'ici un peu tabou. Alors, 2 grammes par kilo de poids de corps représenterait environ 150 grammes de protéines pour une personne de 75 kilos, et ce n'est pas rien. Évidemment, cette limite supérieure, cette fourchette haute, devrait être réservée aux personnes qui ont besoin d'un tel apport en protéines, notamment les athlètes de sport en résistance, les personnes âgées, relativement corpulentes, afin de ralentir leur sarcopénie, c'est-à-dire la diminution de la masse musculaire avec l'âge. Aux États-Unis, l'USDA recommande des apports quotidiens en protéines basés sur le pourcentage des calories totales, donc environ, c'est ce qu'il recommande, 10 à 35% des calories totales, contre 10 à 27% pour l'ANSES en France. Donc là encore, on passe d'une fourchette relativement basse à une fourchette quand même assez haute. Mais alors comment on estime en grammes de protéines ce que peut représenter 10 à 35% des calories? C'est là que les enseignements appris au début de ce chapitre vont nous aider. Voici comment on va procéder. Pour apprendre à convertir des calories, donc un pourcentage calorique en grammes, il faut reprendre ce que nous avions énoncé au début, à savoir que 1 gramme de protéines, c'est 4 kilocalories. Dans le cas de l'USDA, qui représente un apport protéiné de 10 à 35% des calories totales, nous allons partir sur une valeur médiane de 15%, qui pourrait correspondre à un homme d'une trentaine d'années relativement sédentaire, et qui fait éventuellement un peu de sport occasionnellement le week-end. Considérons que cet homme consomme environ 2200 kilocalories par jour, ce qui est à peu près l'apport moyen pour ce type d'individu en général. 15% de protéines sur ces 2200 kilocalories par jour représenterait donc 330 kilocalories de protéines, donc c'est 15% fois 2200. Et pour avoir le grammage, on prend les 330 kilocalories de protéines que l'on divise par 4, puisqu'on sait que 1 gramme de protéines, c'est 4 kilocalories, ce qui donnerait environ donc 82-83 grammes de protéines par jour. Et 83 grammes de protéines par jour, ça équivaudrait grosso modo quand même à 4 portions de 20 grammes de protéines réparties sur la journée, ou alors 3 plus grosses portions. Donc on a choisi ici 4 portions de 20 grammes parce qu'on sait que un steak ou 3 œufs ou une part de poisson représente environ 20 grammes. Ce qui en pratique pourrait donner donc 4 œufs le matin, donc 24 grammes de protéines, 100 grammes d'escalope de poulet au second repas, par exemple le midi, donc 24 grammes de protéines, 150 grammes de fromage blanc ou de skyr l'après-midi en guise de collation, donc 15 grammes, et une part de poisson maigre ou gras d'ailleurs au dîner, donc environ 18 à 20 grammes de protéines. On se rend compte à travers ce calcul rapide et surtout cette mise en pratique du plan alimentaire sur la base des calculs, donc que pour beaucoup d'individus, on est franchement très loin du compte. On voit bien ici que pour être dans un optimum, il y a quand même 4 apports en protéines, et mis à part certains sportifs qui suivent ce genre de recommandations, la plupart des individus lambda sont loin du compte en termes d'apports protéiques. Dit autrement, beaucoup de gens pensent bien faire en mangeant peu ou en priorisant des végétaux, mais se retrouvent, malgré eux, finalement, sans le savoir, carencés en protéines. En fait, l'apport en protéines est probablement l'une des notions les plus mal comprises, que ce soit en diète standard, en alimentation saine de type méditerranéenne, et même en alimentation low carb, voire cétogène. Dans certains cas, trop peu de protéines sont consommées, et dans d'autres cas, beaucoup trop, et provenant d'aliments de mauvaise qualité. Autrement dit, les erreurs sont nombreuses sur ce sujet central, indispensable à une alimentation visant l'optimum. pour ne plus jamais avoir à douter de son apport idéal en protéines pour la santé, la longévité, la prise de masse maigre et la perte de masse grasse, voici ce que nous allons apprendre dans le deuxième contenu réservé aux membres Blueness. Nous allons voir quels enseignements tirer des apports journaliers recommandés en protéines que nous venons de voir. Faut-il ou non rehausser ces apports en protéines? Pour celles et ceux qui devraient rehausser leurs apports par rapport aux recommandations, quelle serait donc, en pratique, la fourchette optimale? Quels apports en protéines pour le sport? Quels apports en protéines en alimentation cétogène? Quels apports en protéines en alimentation méditerranéenne? Et enfin pour les personnes âgées. Et en définitive, nous verrons combien de protéines on devrait idéalement consommer au quotidien et sur quelle base on devrait augmenter ou diminuer son apport en protéines. Dans ce contenu, nous détiendrons donc définitivement les clés et nous connaîtrons enfin les secrets souvent mal expliqués et mal appliqués liés à la consommation de protéines. Si ce contenu premium vous intéresse, rendez-vous sur le site blueness.com, connectez-vous à la zone membre afin de le consulter au format texte et au format podcast. À très vite sur le site Blueness.